Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Un coup de théâtre en Algérie, bientôt un an de contestation du régime. Et celui qui était le véritable homme fort du pays, le général Gaed Ahmed Salah, vient de mourir. Crise cardiaque, qu'est-ce que cela peut changer? Nous verrons cela avec le spécialiste Kader Abderrahim en studio avec nous. En Australie, Sydney, toujours dans le brouillard, un habitant de la ville nous décrit cette situation provoquée par les feux autour de Sydney depuis de longues semaines.
On est impacté tous les jours avec ces fumées, cette odeur permanente, ce ciel gris et ce soleil qui est un peu orangé, une couleur très particulière. Et donc tous les jours, on se réveille, on se demande mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête, quoi. Il y a une situation un peu d'apocalypse et d'impuissance.
Et de dérèglement climatique. La politique tout charbon du Premier ministre climato-sceptique peut-elle être remise en cause? Nous verrons cela. 19e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats contestataires menacent de s'en prendre aux raffineries. La menace est-elle crédible? Et puis où en est la bataille de l'opinion? Notre invitée sera Céline Braque de l'Institut Odoxa. Le président et le Premier ministre sont impopulaires mais ils ne décrochent pas. Le leader de la CGT n'est pas tellement plus populaire qu'eux. Une affaire qui pose la question de l'action de la police et de la justice à l'heure des réseaux sociaux. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Deux ados soupçonnés de viol, placés en détention. Un cyberjusticier a aidé les enquêteurs. Il a aussi livré les auteurs présumés à la vindicte.
Mais plutôt que d'alerter la plateforme Pharos de la police, effectivement, le jeune surdoué en informatique de Besançon a pris le risque de provoquer une vengeance citoyenne.
Vous nous détaillerez cela dans ce journal encore. Les Restos du Cœur ont besoin de dons. Nous serons en ligne avec leur président. La fin d'année est dure. Les intempéries, encore 14 000 foyers privés d'électricité. Nous irons en Corse. À 13h30, ce sera la Terre au carré. Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Élodie, quel est le programme?
L'affaire du siècle, un an après. Où en est cette procédure juridique lancée contre l'administration française pour son inaction climatique? Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace, et Marie Toussaint, députée Europe Écologie Les Verts, répondront à toutes vos questions.
Au 01 45 24 7000, vous pouvez les poser maintenant. L'émission à 13h30 et la bise à Mathieu Vidard qui prend un peu de repos. Avant la Terre au carré, nous irons faire nos course dans une boutique Sceaux 2019 à Strasbourg. Les jouets et même les vêtements sont unisexes. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
En février, cela fera un an que le régime algérien est bousculé par les manifestants. Ce mouvement, le Irak, a déjà abouti au départ de l'éternel président Abdelaziz Bouteflika. La population ne reconnaît pas de réelle légitimité à son successeur élu tout récemment. C'est encore et toujours l'armée qui tient le pays. Et justement, coup de théâtre ce matin, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est mort ce matin. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Bruno.
Vous revenez d'Algérie, Mathilde, où vous avez couvert la dernière présidentielle. Crise cardiaque à 6h à son domicile, il avait 79 ans.
Oui, Ahmed Gaïd Salah était le véritable homme fort de l'Algérie, chef d'état-major de l'armée depuis plus de 15 ans, un record de longévité à ce poste. Il a pourtant mis du temps à être reconnu par ses pairs, ayant un passé militaire moins glorieux que certains. Une armée qu'il a participé à refaçonner, brisant en partie l'emprise du très puissant service de renseignement, menant plusieurs opérations main propre après des affaires de corruption, lui permettant au passage d'écarter ses rivaux. Il est longtemps resté loyal à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui l'avait sauvé d'une retraite prématurée, avant de le lâcher en mars dernier. Et dans la rue, à ce moment-là, des milliers et des milliers d'Algériens demandent la fin du système. Bouteflika renonce à un cinquième mandat. Gaïd Salah se retrouve en première ligne, cible des manifestants. Il s'est beaucoup impliqué dans cette toute dernière campagne présidentielle, multipliant notamment les apparitions télévisées. Depuis l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, Ahmed Gaïd Salah devait retrouver une place plus discrète, bien que très puissante. C'est ce tout nouveau président qui va nommer son successeur. Une première décision qui donnera aussi le ton de son mandat, plus de transparence, plus d'ouverture ou dans la droite ligne du système.
Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de l'Algérie. C'est l'homme fort du régime qui vient de mourir?
Oui, on peut le dire. C'est comme ça fait depuis les années 90, c'est la première fois que l'armée assumait la réalité du pouvoir sans aucun complexe. Et avec le général Gaïd Salah, non seulement elle l'a assumé, mais je dirais qu'elle l'a façonné également.
Quelles peuvent être les conséquences de ce décès? Est-ce que, au fond, un général meurt, un autre va le remplacer, ou cet homme-là était plus important que les autres?
On connaît déjà son successeur, hein, le général Saïd Shangriha, qui va lui succéder, qui est beaucoup plus jeune, donc qu'on présente souvent comme un homme plus ouvert, plus au fait des défis auxquels l'Algérie doit faire face aujourd'hui en interne, mais également à ses frontières. Il y a des menaces importantes. Mais pour le temps, je pense que ça ne changera rien sur le fond. Il va falloir attendre de voir quelles vont être les évaluations que va faire le successeur du général Gaït Salah, et également de quelle manière est-ce qu'il va aborder son nouveau poste, parce qu'il y a des questions immédiates qui se posent.
Lesquelles ?
La question malienne, la question du Niger, la question du Sahara, la question de la relation avec le Maroc, la question libyenne, qui est devenue aujourd'hui une menace très importante. 1000 kilomètres de frontières communes entre l'Algérie et la Libye. Donc tout ça sont des questions. Et puis la question de la non-ingérence, qui est devenue un dogme pour l'Algérie. L'article 26 de la Constitution interdit à l'armée algérienne de poursuivre ceux qui viendraient la menacer sur son territoire. Donc peut-être qu'il peut y avoir des évolutions sur tous ces dossiers, mais ça prendra un petit peu de temps, parce que la donne a changé. Ça, c'est quand même, je pense, assez notable avec le Hirak. C'est qu'aujourd'hui, il faut composer avec des forces et des acteurs qui n'avaient pas jusque-là voix au chapitre.
La contestation interne qui demeure plus que jamais, et le contexte géopolitique, on a bien noté tout cela. Merci Kader Adderrahim. Vous publierez en février, pour les un an du Hirak, ce livre géopolitique de l'Algérie. Ce sera édité chez Bibliomonde. Merci d'être passé en studio. Notre maison brûle, disait Jacques Chirac à propos du changement climatique. Elle brûle même sous nos yeux. En ce moment, en Australie, où le record de température moyenne dans le pays a été battu deux fois la semaine dernière, plus de 41 degrés, manque de pluie flagrant et de terribles incendies depuis début septembre. On recense désormais 200 foyers d'incendie. L'équivalent de la Belgique est parti en fumée en Australie. La province la plus touchée, c'est la Nouvelle-Galles du Sud, celle de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie, qui vit dans la fumée depuis de longues semaines. C'est une urgence de santé publique, disent les organisations de médecins. Nathanaël Charbonnier a joint le journaliste François Vantôme, qui habite Sydney.
C'est assez bizarre comme atmosphère ici à Sydney. Même savoir qu'on n'est qu'à 100 km de ces incendies, mais on est impacté tous les jours avec ces fumées, cette odeur permanente, ce ciel gris et ce soleil qui est un peu orangé, une couleur très particulière. Et donc tous les jours, on se réveille, on se demande mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête, quoi. Il y a une situation un peu d'apocalypse et d'impuissance. Parce que maintenant, on parle de victimes, il y a des morts et il y a énormément de personnes qui ont perdu aussi leur maison. Maintenant, il y a vraiment un sentiment de tristesse permanent dans la ville, et un petit peu de colère, il faut l'avouer.
Et oui, colère parce que le Premier ministre en pleine crise était parti en vacances à Hawaï. Face à la polémique, il est rentré dardard. Scott Morrison, à l'image de Trump, Poutine ou Bolsonaro, un peu moins peut-être, est un climato-sceptique. Sa politique, c'est le tout charbon, qui représente les trois quarts du mix énergétique de l'île et des milliers d'emplois. Il a pris la tête du gouvernement l'année dernière. On retrouve François Vantôme.
Aujourd'hui, je pense que s'il y avait des élections, on n'aurait pas forcément les mêmes résultats. C'est vrai que lui dit d'accord, il faut faire des choses, mais il faut garder un équilibre pour garantir l'emploi, puisque c'est ça aussi la question. C'est pour séduire une certaine partie de l'électorat qui avait peur de perdre son emploi si on arrêtait les mines de charbon, par exemple. Donc c'est un grand problème, et Scott Morrison, le Premier ministre, a dit « j'en parlerai plus tard, ce n'est pas le moment de discuter de tout cela, c'est Noël, unissons nos forces pour essayer d'aider nos pompiers, etc. etc. »
Voilà pour cette situation en Australie. C'est Noël, regardons ailleurs, donc en quelque sorte. Et François Vantôme nous dit encore qu'il y a débat sur l'organisation des feux d'artifice à Sydney en cette fin d'année. Tradition qui rassemble habituellement des centaines de milliers de personnes. Doit-elle être respectée en cette année 2019 ? Les intempéries en France à présent. Encore 3 départements en alerte orange et même 4 alertes avalanche en Savoie et Haute-Savoie en ce début de vacances. 20 à 30 cm de neige sont tombés cette nuit vers 1800 mètres et le vent souffle fortement. Des alertes inondations en Ille-et-Vilaine et Charente-Maritime. Dans les régions touchées par la tempête ce week-end, il reste un peu plus de 14 000 foyers sans courant en Nouvelle-Aquitaine, Gironde en particulier, Occitanie et Corse. Je pense que tout sera rétabli d'ici à Noël, dit la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne. En Corse, avion, train, bateau, nous parlons des moyens de transport vers l'île et sur l'île dans un instant. D'abord, reportage sur place, Maxime Beckmer.
En fait, il y a un gros rocher qui est descendu avec la rivière et il a tout emporté. Hein.
Stéphane Fragas y a été le spectateur impuissant de l'effondrement de la terrasse de son bar-restaurant.
J'espère qu'on va pouvoir reconstruire parce qu'on en a besoin pour travailler, c'est tout. Hein. Au moins pour le mois de mars, le mois d'avril, pour reprendre la saison. Quoi. Maintenant, c'est pas trop grave, mais c'est surtout pour notre saison. Quoi.
Il était loin d'imaginer qu'un tel phénomène puisse se produire.
Non, il n'y a jamais rien eu. Enfin, moi, ça fait 22 ans que j'ai le bar, j'ai jamais eu de soucis, jamais rien entendu. Comme nous l'ont dit les gens du village, à part quand il y avait eu le feu, mais bon, c'est quand il y avait eu l'avalanche. Et là, il n'y a rien qui présageait.
Juste à côté, son voisin, Marc Moraccioli, a vu sa maison remplie d'eau en quelques minutes.
J'ai essayé de sortir, la porte était bloquée parce qu'il y avait la pression de l'eau, donc je suis passé par derrière. Et là, j'ai vu la rivière qui rentrait dans la maison par les deux fenêtres et la porte.
Le temps de tout remettre en état, il devra être relogé par sa famille durant quelques jours.
C'est-à-dire qu'on a bien nettoyé, mais tous les murs sont marqués parce qu'il y avait 10 cm de boue après.
Un peu plus bas, c'est l'entreprise de fabrication de glaçons d'Okana qui a en partie été détruite. 55 ans de travail sous les eaux pour Toussaint Mouzeï.
Le travail de toute une vie qui est pratiquement parti. Hein. Donc, et les investissements que nous avons faits.
Les sinistrés espèrent maintenant que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu au plus vite.
Voilà pour ce reportage de Maxime Beckner à Okana, en Corse du Sud. Alors les transports, il n'y a toujours pas de train ce matin en Corse. Les bateaux lèvent petit à petit à nouveau l'ancre. Attention, les horaires et les paquebots qui naviguent peuvent changer par rapport à ce qui était initialement prévu. Quelques 6000 passagers étaient en carafe ce week-end. L'aéroport d'Ajaccio reste inondé. Les pompiers pompent. Pas de date de réouverture pour le moment. Et une partie des vols est transférée vers Bastia. Le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud, Alain Charrier, raconte.
Air Corsica a prévu un dispositif très exceptionnel qui va permettre aux passagers qui devaient partir d'Ajaccio d'aller à Bastia en bus et en avion de regagner le continent. C'est une opération extrêmement lourde puisque beaucoup de vols sont prévus. L'objectif, c'est de permettre à toutes ces personnes de regagner leur destination.
Donc, par exemple, Marseille, Paris, Lyon, Toulouse, Bruxelles.
Toutes les destinations qui étaient prévues au départ d'Ajaccio. Il y a 51 vols de prévus, je crois, en plus aujourd'hui. On est dans une opération gigantesque. Je crois que tout est mis en œuvre pour que tout le monde soit pris en charge.
Et les avions décollent et atterrissent par ailleurs à Calvi et Figari, ailleurs dans l'île. Il manque toujours beaucoup de trains et de métros au 19e jour de grève contre la réforme des retraites, de grève et de mobilisation. 40% des TGV et TER circulent, 20% seulement des transiliens, un quart des intercités. Et à propos des Transiliens, ne comptez pas sur eux pour le réveillon de Noël. Les trains ne circuleront pas entre demain 18h et mercredi après-midi, voire jeudi dans la matinée pour certaines lignes. À Paris aujourd'hui, 6 lignes de métro restent fermées. Les RER A et B ne circulent qu'aux heures de pointe. Et puis cette question, y a-t-il des risques de fermeture ou de perturbation des raffineries? C'est une menace que brandissent les syndicats contestataires. Les assemblées générales se tiennent en début d'après-midi. Qu'en est-il, Cyril Ardo?
Eh bien, en tout cas, la CGT, comme force ouvrières, deux syndicats puissants dans les raffineries vont tenter au maximum de faire voter l'arrêt des raffineries. C'est ce qui s'est passé depuis hier, ce qui se passe depuis hier pour celle de l'Aveyra dans les Bouches-du-Rhône, même s'il faudra une à deux semaines avant l'arrêt complet. Mais la stratégie, c'est vraiment ça, brandir la menace d'une pénurie pour espérer faire plier le gouvernement. Jean-François Vapillon est le secrétaire de la branche pétrole à Force Ouvrière.
Le blocage économique est en cours, ça fait depuis 5 décembre que les raffineries, aussi bien que la SNCF, que le privé comme le public, on se bat contre la réforme des retraites et pour faire retirer ce projet de loi. Donc maintenant, on attend que le gouvernement revienne en arrière.
Il y a 8 raffineries en France métropolitaine. Oui. Malgré la grève qui les touche toutes plus ou moins à grande échelle, du carburant continue d'en sortir. Il est donc trop tôt pour parler de pénurie. Alors certes, par endroit, il peut être un peu difficile de faire le plein. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, au moins un type de carburant est manquant d'environ 15% des stations-service. Ça peut s'expliquer par des difficultés d'approvisionnement, mais aussi par le comportement des automobilistes. François Pousse est le président de la branche station-service au Conseil national des professions de l'automobile.
Il est à noter à chaque fois qu'il y a des tensions sur les produits pétroliers que les consommateurs, ayant peur de ne plus avoir de carburant, se ruent à la pompe et ça déstabilise encore plus rapidement les stocks des stations-service.
Alors pour l'instant, il reste du carburant dans les quelques 200 dépôts pétroliers présents sur le territoire. Combien même il serait vide, la France dispose d'un stock stratégique correspondant à environ 3 à 5 mois de consommation de carburant.
Et à propos de la SNCF, si vous devez prendre le train le week-end prochain, les prévisions seront dévoilées vendredi après-midi et puis à l'instant le taux de grévistes selon la direction. Taux de grévistes ce matin, 9,2% à la SNCF, 47,7% des conducteurs sont en grève. Alors il n'y aura sans doute pas de vraies négociations dans les 10 jours à venir. Elles reprendront en tout cas officiellement début janvier. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Que reste-t-il à négocier? Une façon de répondre à cette question, c'est de parler, Laurent, des 4 ministres qui seront sur le pont chargés des dossiers les plus délicats.
Et en charge de la pénibilité et de l'emploi des seniors, la ministre du Travail Muriel Pénicaud est chargée du dossier aménagement de fin de carrière, avec notamment la mission de créer un droit à la reconversion, donc en fin de carrière, pour les salariés qui occupent des métiers aux tâches difficiles. Sur la pénibilité, la CFDT et l'UNSA demandent que le gouvernement réintègre tout simplement l'ensemble des critères de pénibilité, comme le port de charges lourdes ou l'exposition aux produits chimiques supprimés en 2017. C'est non, répond Matignon. En revanche, la négociation se fera sur le niveau de déclenchement de la pénibilité, avec des seuils plus bas pour mieux faire reconnaître, par exemple, le travail de nuit. Cette question des fins de carrière est très importante également à l'hôpital. Agnès Buzyn est donc chargée de travailler sur les métiers les plus exposés. Un quart des aides-soignants et infirmiers de catégorie A pourraient partir jusqu'à 2 ans plus tôt à la retraite, indique le gouvernement. Même constat du côté de la fonction publique, aménagement de fin de carrière et retraite progressive qui pourraient faire leur retour dans la fonction publique. C'est une demande de la CFDT, à condition de l'ouvrir à tous les fonctionnaires, ce qui n'est pas encore gagné. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, récupère évidemment le dossier. Dernier dossier sensible, le niveau de pension de retraite, les retraites minimums, ce qu'on appelle le minimum contributif, calé à ce jour à 85% du SMIC. Dans le projet du gouvernement, les syndicats voudraient obtenir 90% du SMIC. C'est le nouveau secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, qui est en première ligne sur ce dossier.
Dans les jours à venir, la réforme des retraites, la mobilisation contre elle seront certainement au menu des déjeuners et dîners de Noël en famille. C'est peut-être un moment important dans la bataille de l'opinion. Alors où en est-on de cette bataille au 19e jour de grève? Pour en parler avec nous au téléphone, la directrice générale de l'Institut Odoxa. Bonjour Céline Brac.
Bonjour Bruno Duvic.
Alors le dernier baromètre Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale est publié en ce début de vacances. Premier constat Céline Brac, le président et le premier ministre restent impopulaires mais ils ne dévissent pas dans l'opinion.
Oui, 67% de mauvaises opinions pour le président de la République, 65% pour son premier ministre. Finalement on reste sur la tendance médiocre qui est enregistrée par l'exécutif depuis un an. Mais vous avez raison, finalement Emmanuel Macron ne perd qu'un point depuis le mois dernier, et Édouard Philippe, aucun. Finalement, ce que l'on peut dire, c'est que cette séquence des grèves, aussi désagréable soit-elle, elle fixe les opinions. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les sympathisants de la République en marche qui vont être redevables à l'exécutif de maintenir le cap des réformes, de structures, des réformes auxquelles ils aspirent. Et puis, on va avoir de l'autre côté les sympathisants des extrêmes, extrême gauche, extrême droite, qui sont plus que jamais vent debout contre une politique qui est jugée injuste. Et entre les deux, on va avoir tous les Français qui n'ont pas spécialement de préférence partisane ou qui sont proches du Parti Socialiste ou des Républicains et qui vont être un peu partagés entre les deux camps.
Alors, puisqu'on parle de bataille de l'opinion, vous avez également mesuré chez Odoxa la popularité des deux principaux leaders syndicaux, Laurent Berger pour la CFDT, Philippe Martinez à la CGT. Est-ce qu'ils sont plus populaires que le président et le Premier ministre?
Pour Philippe Martinez, on peut dire qu'il est à égalité avec le président et le premier ministre. C'est-à-dire qu'il est exactement finalement aussi impopulaire que le président et le premier ministre, puisqu'il a 64% de mauvaises opinions. Finalement, vous pouvez reprendre mon descriptif précédent et le mettre à l'envers ou presque, c'est-à-dire qu'il est très apprécié par les sympathisants de la France Insoumise, 84% de bonnes opinions pour le secrétaire général de la CGT. Pas mal chez les sympathisants du Rassemblement National, et ça c'est quand même nouveau, oui. Hein, 54% de bonnes opinions, et il est complètement rejeté par les sympathisants de La République En Marche, des Républicains, et au Parti Socialiste, on va être un peu entre les deux. Et puis Laurent Berger, lui, alors c'est une personnalité beaucoup plus consensuelle et plus populaire, puisqu'il a 45% de bonnes opinions. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui rêveraient d'un tel niveau de popularité. C'est-à-dire, on voit que les niveaux sont assez homogène selon les catégories politiques. Et c'est clair que sa position contre l'âge pivot est largement partagée par les Français. Et les Français lui font certainement gré aussi d'avoir voulu une pause des grèves pendant Noël.
Justement, en un mot, il nous reste 10 secondes, Céline Braque. Est-ce que au 19e jour de grève, est-ce que l'opinion soutient majoritairement la mobilisation contre la réforme? On continue d'entendre dans les reportages, oui, je galère, mais je soutiens, je suis d'accord avec les grévistes. Est-ce et que l'opinion soutient la mobilisation?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a les deux tiers des Français qui considèrent que c'est un mouvement de grève justifié. Mais ça ne les empêche pas, les Français, d'être très choqués par le fait que cette grève continue pendant les grèves. Les Français étaient très opposés à cette continuation de la grève pendant les fêtes. Ils demandaient au moins une pause. Oui. Ils n'ont pas obtenu cela. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui choque très forte majorité de l'opinion.
Merci Céline Braque. Je précise que l'enquête Odoxa a été réalisée mercredi et jeudi dernier par Internet auprès d'un échantillon de 1002 Français, 18 ans et plus. Marge d'erreur 2,5 points. Alors en tout cas, les grévistes reçoivent le soutien d'une quarantaine de personnalités, des comédiens, des intellectuels, des universitaires. Sur un blog du site d'information Mediapart, ils appellent carrément à soutenir financièrement les grévistes. Alors les signataires vont de Jean-Marie Bigard à Annie Ernaux, en passant par l'écrivain Laurent Binet.
Contrairement à ce qu'on dit, les cheminots se battent pour tout le monde et simplement, ils sont aux avant-postes. C'est des gens comme eux qui vont décider de la victoire ou de la défaite. Avant cette tribune, j'avais déjà commencé à alimenter des cagnottes plus isolées, de profs, d'urgentistes. Donc voilà, je fais ma part. Je pense qu'en effet, à un moment, pour gagner, il faut payer. Parce que, je veux dire, là, contre quoi on se bat? Contre des retraites amputées de 20 à 25%, contre un âge de la retraite qui va reculer et non pas à 62, 64, là, comme on essaie de nous le dire. Mais, personne ne parle de la durée de cotisation, la durée qui va passer de 41 à 43 ans. Ça veut dire que n'importe quel homme ou femme qui a fait des études ne partira pas avant 66 ans. Bah, je veux dire, si vous expliquez les choses comme ça, tout de suite, les choses deviennent plus claires, non?
Un propos recueilli par Corinne Pellissier. Et donc, je vous rappelle le chiffre de la matinée, le taux de grévistes qui tombe à moins de 10%, 9,2% à la SNCF. Et moins de la moitié des conducteurs de train sont désormais en grève.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Les Restos du Cœur ont besoin de dons en cette fin d'année. Bonjour Patrice Blanc.
Bonjour.
Président des Restos du Cœur, merci d'être en ligne avec nous. Il vous manque de quoi faire tourner vos centres en cette fin d'année, c'est bien cela?
Oui, absolument. Nos prévisions nous laissent penser que nous aurons deux semaines qui vont être difficiles à financer.
Alors c'est un manque que vous n'aviez pas anticipé, 3 à 4 millions d'euros, c'est bien cela la somme?
Oui, c'est ça, oui, à peu près. Voilà.
Alors que se passe-t-il? Il y a eu une baisse de dons, comment se fait-il que vous n'avez pas pu anticiper cette situation?
Disons que l'anticipation, on l'a faite quant au nombre de personnes qu'on allait accueillir, hein, puisque les statistiques montrent qu'on était à 900 000 personnes l'an dernier, et les inscriptions actuelles montrent qu'on atteindra, sinon dépasser, ce chiffre. Donc du côté du nombre de personnes à accueillir, malheureusement, l'anticipation est bonne. Par contre, on espérait des dons un peu supérieurs à ce qu'ils sont. Il y a un léger fléchissement là depuis quelques semaines. Probablement, les gens ont un peu la tête à autre chose, ont la tête ailleurs, s'inquiètent de l'avenir des retraites.
Oui.
Je crois qu'il ne faut pas opposer l'avenir au présent.
C'est de dons financiers, pour dire clairement les choses, que vous avez besoin?
Oui, absolument. Oui. C'est ce qui est le plus commode, hein, des dons financiers. C'est plus facile pour pouvoir gérer des achats de marchandises. Et puis, il ne faut pas oublier que au Resto du Cœur, on reçoit les gens une fois par semaine pour donner des produits alimentaires, mais ça permet comme ça de développer des démarches d'aide à la personne, d'inclusion.
Oui.
Social.
Le plus simple, c'est d'aller sur restoducœur.org pour faire ses dons. Vous disiez, les gens ont peut-être la tête ailleurs. Est-ce que vous, de votre poste, vous voyez un impact de la grève pour les Restos du Cœur ailleurs, je ne sais pas, dans la distribution de l'aide, dans l'approvisionnement?
Alors, en France en général, non. Les seules difficultés qu'on rencontre, c'est dans la région parisienne, en Île-de-France, où là, il faut constituer, disons, dans les centres des Restos du Cœur, des stocks tampons pour pouvoir faire face aux difficultés de circulation.
Merci Patrice Blanc d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Voilà, les Restos du Cœur ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire en cette fin d'année. N'hésitez pas à aller sur le site restoducœur.org. Voilà une affaire qui amène à s'interroger sur le travail des enquêteurs à l'époque des réseaux sociaux tout puissants. Deux adolescents soupçonnés d'un viol dans l'Essonne. Ils sont mis en examen, placés en détention. Particularité de l'affaire, des images de la scène ont circulé sur les réseaux. Autre particularité, un lycéen très doué pour se débrouiller sur les réseaux, trouver des informations, a aidé a repéré au moins l'un des deux ados soupçonnés. Cette affaire est emblématique, Emmanuel Leclerc. Hein.
Oui, la vidéo a bien été signalée aux cyberpolicier de la plateforme Pharos, mais entre-temps, certains ont été très rapides pour identifier eux-mêmes les auteurs, effectivement, en piratant au passage certaines données privées. C'est le cas de Yazid, alias Cops, sur Twitter. Il a 16 ans, il est en première dans un lycée à Besançon et joint par Margot Steve.
Avec le prénom et la ville, avec des bases de données que nous, on avait piratées bien avant. On a essayé de trouver quelqu'un qui s'appelait par ce prénom et sur la ville. Et bingo, on a trouvé.
Mais le problème, la limite, c'est quand le cyber-chevalier justicier du web livre l'identité et l'adresse du ou des suspects à la vindicte populaire. Catherine Chambon est la chef de la sous-direction cyber de la police judiciaire.
On peut arriver à des phénomènes de vengeance publique. On l'a vécu dans le courant de l'année 2019 avec le mythe de la camionnette blanche qui enlevait des enfants, ce qui était absolument faux. Et puis, surtout, s'il arrivait malheur à celui qu'il considère comme suspect, ce justicier, c'est lui qui en serait en partie responsable.
Catherine Chambon préférerait que Yazid, le jeune lycéen de Besançon, alias Cops, poursuive ses études et s'engage dans la cyberpolice dans quelques années, plutôt que de jouer à nouveau les justiciers du web. Il faut savoir que dans ce genre d'affaires criminelles, avec des vidéos diffusées sur Snapchat ou Twitter, les cyber-enquêteurs obtiennent désormais les données personnelles des auteurs en quelques minutes, Bruno, voire quelques heures tout au plus.
Merci Emmanuel Leclerc. Dans l'actualité encore, la mort du président des chambres d'agriculture, mort accidentelle. Claude Cochonneau avait 62 ans. En sport, le forfait du français Lucas Pouille, 22e mondial, demi-finaliste l'année dernière, forfait à l'Open d'Australie en janvier prochain. Il devrait du coup chuter très lourdement au classement entre une demi-finale et une absence totale du tournoi à un an d'écart. Il vous reste peut-être des courses de Noël à faire. Voici une idée, voici un magasin qui est très symbolique et emblématique de l'époque. C'est une boutique à Strasbourg. Vous y trouverez des jouets et même des vêtements unisexes. Reportage Solène Delarquier.
Un espace café accueille les parents et une cabane attend les enfants. Dans la boutique, tout est sélectionné par Joy Fleuteau comme ce mémori des métiers.
La paire à retrouver, ça va être par exemple un danseur, une danseuse. On a besoin de dire, tu es un garçon, tu as le droit d'être danseur.
La gérante de 27 ans propose des jeux en bois ou pour découvrir l'électronique. Ici, pas de rayon fille-garçon.
Il faut se demander quelles sont les compétences que j'apprends à mon enfant. Avec une poupée, on va apprendre l'empathie, le fait de s'occuper des autres. Quand on joue à des jeux de puzzles, de mécanos, en fait, on va développer des compétences mathématiques, géométriques.
Isor achète justement un livre intitulé « J'aime pas les poupées ».
Pour ma fille qui a 8 ans, qui joue à des jeux de garçons en permanence et qui, à chaque fois, se fait offrir des poupées et ça l'embête. C'est les adultes, en fait, les problèmes, c'est pas les enfants.
Donc là, vous lui donnez un petit message comme quoi...
Elle n'est pas obligée d'aimer les poupées, qu'il y a des livres qui le disent.
Il y a aussi des livres sur le handicap ou l'environnement. D'ailleurs, les jeux sont durables et les vêtements éthiques. Joy favorise les marques locales, même si ces produits non-genrés viennent surtout de Scandinavie. Laurence regarde la sélection.
À mon époque, on ne nous offrait pas forcément des petites voitures, des trains électriques, et pourtant...
Ça vous donne envie.
Ah oui, toujours d'ailleurs.
Et si vous voulez découvrir cette boutique, elle se niche dans la bien nommée rue du jeu des enfants.
Reportage Solène Delarquier, France Bleu, Alsace.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau.
Une nouvelle perturbation gagne les côtes atlantiques cet après-midi pour s'étendre rapidement vers le massif central. Les pluies associées seront faibles. Le vent de sud-ouest ne dépassera pas la barre des 70 km/h. Et puis en vous rapprochant des frontières de l'est, prévoyez des pluies faibles sous un ciel couvert, de la neige au-dessus de 900 ou 1000 mètres entre les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Et attention au vent fort sur les différentes crêtes et au risque d'avalanche très élevé en Savoie, intéressant au fil des heures la Haute-Savoie et l'Isère. Dans les autres régions, votre après-midi sera souvent agréable et assez bien ensoleillé. Les températures maximales évolueront entre 9 et 18 degrés du nord au sud. Demain, nous allons retrouver notre perturbation entre la Gironde et les frontières de l'Est en passant pour le massif central. Prévoyez d'assez belles éclaircies dans les autres régions, excepté dans le nord et le nord-est où les nuages, plus présents, lâcheront quelques averses.